Chapitre 18e. Le navire négrier se manifeste. Comment s'achètent et s'embarquent les Noirs? Juge et justice. Service du bord. Horrible confidence. Premier départ. Événement fâcheux mêlé de farce. Départ définitif. Le lendemain de notre arrivée à Zanzibar, c'est-à-dire le 27 janvier, on commença à faire, sans perdre de temps, les préparatifs nécessaires pour recevoir 250 esclaves. Avant toute chose, le charpentier s'occupa à monter le faux pont. Ce local avait 4 pieds et demi de haut et s'étendait depuis le magasin aux vivres situés en avant de la chambre jusqu'à la proue. On le divisa de l'avant à l'arrière en 3 compartiments longitudinaux. Celui du milieu, large de 5 pieds et 8 pouces, fut destiné à contenir les nègres d'une haute stature. Les 2 autres, rétrécis à leurs extrémités par les façons du navire, devaient renfermer les noirs d'une taille moins développée. Les planches de division de ce faux pont, soutenues de distance en distance par de massives barres transversales, appuyées de chaque bout sur le flanc du navire, étaient d'une solidité à supporter, et même au-delà, le poids des noirs pendant les plus forts roulis. Le tonnelier Boubert se mit en devoir de confectionner les baquets et les gamelles destinés à contenir les aliments des captifs et à remonter les pièces à eau. De leur côté, les matelots ne perdaient pas une minute de leur temps. Ils réparaient les voiles et installaient le charnier à eau, ainsi que la marmite destinée à la cuisson des aliments des esclaves. Après un travail de 8 jours, la Doris n'était plus reconnaissable. Entièrement peinte en noir, ensevelie sous son énorme taux, défendue par sa rambarde et portant 12 canons, dont 2 seulement étaient véritables, elle était devenue, au dedans et au dehors, une forteresse capable de résister aux ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Elle présentait donc une apparence à même d'en imposer à nos noirs et aux assaillants de terre. Il me serait impossible de rendre l'impression de profonde tristesse que causait la vue de notre navire une fois que tous ses préparatifs furent terminés. Pendant que ces travaux se poursuivaient avec activité, le capitaine, logé à terre, discutait avec le gouverneur de Zanzibar les droits payés pour l'acquisition de chaque captif. Ce gouverneur, un très joli garçon, nommé Yakout, ancien favori de l'imam de Mascate, avait un point de ressemblance avec l'illustre ministre de l'empereur Justinien, Narsès. Au reste, à ce malheur commun s'arrêtait toute comparaison entre ces 2 hommes d'État. Yakout, donc, à défaut d'autres passions qui pussent le distraire, avait reporté tout son amour et tous ses désirs sur l'or. Il était d'une rapacité incroyable. Rien n'était plus curieux que d'assister à une entrevue du gouverneur et du capitaine Liard. Molière était dépassé. Enfin, après bien des pourparlers inutiles, un règlement définitif eut lieu. Il fut convenu que le gouverneur recevrait, comme pot de vin, une somme de 500 piastres, soit environ 2600 francs, en sus des droits ordinaires de l'embarquement, montant à 22 francs par tête d'esclave. Cette transaction convenue, le capitaine se mit en quête de courtier, ce qui lui prit encore assez de temps et lui causa beaucoup de tracas, non pas que ces honteux et ignobles entremetteurs manquassent à Zanzibar, au contraire, c'était justement parce qu'ils s'y trouvaient en grand nombre que la difficulté devenait grande. En effet, le capitaine n'avait été averti que s'il oubliait d'employer un seul de ses hideux agents et qu'il se livra à la contrebande, il pouvait être assuré que le courtier négligé s'empresserait de le dénoncer à l'autorité. Or, comme M. Liard, peu satisfait de sa transaction avec Yakout, comptait bien se rattraper en fraudant un peu, il tremblait de se faire un ennemi. Il n'en fut pas moins, comme on le verra dans la suite de ce récit, trahi pour cela. D'abord, et avant toute opération de traite, le gouverneur exigea, conformément à l'usage, que toutes nos embarcations, excepté une seule indispensable au service du bord, fussent remises à terre entre les mains des douaniers. « Cela m'est bien égal, me dit le capitaine, j'ai déjà pris mes mesures à cet égard. » Une fois les acquisitions en train, des préposés aux douanes escortaient chaque jour à bord, au soleil couchant, les noirs inscrits et déclarés, les faisaient embarquer devant eux, puis montant à leur tour, ils fermaient avec soin le cadenas de la chaîne qui attachait notre canot à l'arrière du navire, et allaient ensuite se livrer paisiblement au sommeil, sous une tente dressée exprès pour eux sur la dunette de la Doris. Inutile d'ajouter que le chef de l'escouade douanière, avant de se retirer, affectait de rouler avec beaucoup de soin, en notre présence, dans les plis de sa ceinture, la clé qui retenait la chaîne de notre canot. Dès la première fois que cette installation eut lieu, M. Liard ordonna à Fignolet de placer près des musulmans la vaisselle dont l'état-major de la Doris s'était servi à dîner, et d'oublier parmi cette vaisselle quelques bouteilles d'arak et de liqueur. L'expérience réussit à merveille. 2 heures plus tard, les préposés de la douane de Zanzibar étaient tous en proie à une ivresse profonde. « À présent, mes amis, nous dit le capitaine, rassuré et édifié par les ronflements de nos gardiens, à l'ouvrage, dédoublons le canot. » En effet, le canot, si bien attaché et si mal surveillé, avait été construit en double, c'est-à-dire qu'il contenait une seconde embarcation dont nous opérâmes facilement et promptement le démontage et que nous reconstruisîmes ensuite à loisir. Cela fait, nous laissâmes couler à fond à quelques pieds sous l'eau notre nouveau canot dont la hausse fut amarrée sur le câble qui nous tenait à l'ancre et dont on surfila quelques brasses. De cette façon, il était impossible qu'on pût le découvrir. Le proverbe qui traite d'arabe les gens retors en affaires est assez vrai, mais il le serait bien plus encore si au mot d'arabe on substituait celui de négrier. Ce n'était pas tout que de posséder un moyen de nous rendre la nuit clandestinement à terre. Au moins fallait-il, pour utiliser ces voyages, que nous puissions trouver des esclaves à embarquer. Or, les courtiers de traite, malgré toutes les offres que leur fit le capitaine, refusèrent à l'unanimité de se prêter à notre fraude. Après tout, nous ne pouvions pas trop leur en vouloir, car il ne s'agissait pour eux, si nous avions été surpris, de rien moins que de la tête. Un d'eux, pourtant plus complaisant que ses collègues, voulut bien apprendre au capitaine à dire en arabe « Conduisez vos esclaves à l'embouchure de la rivière à minuit précis, nous vous les paierons comptant. » M. Liard, après 3 ou 4 jours d'études acharnées, prononçait d'une façon assez intelligible cette phrase qui devait lui être d'une grande utilité. Il la mit bientôt en pratique. S'entendant pendant la journée avec les propriétaires d'esclaves, il nous envoyait chaque nuit à l'embouchure de la rivière, qui se perd dans le canal de Zanzibar, à 3/4 de lieue au nord de la ville, embarquer ceux qui nous y attendaient. Ces fréquentes opérations clandestines diminuaient de beaucoup, on le conçoit, les droits que nous aurions dû payer à la douane. Seulement, il devait forcément résulter de cela, le jour de notre départ, une explication orageuse lorsque les Arabes viendraient visiter notre navire. M. Liard, heureux de réaliser en attendant de fortes économies, ne se préoccupait que fort peu de ce léger détail, remettant au dernier moment le soin de régler cette affaire. Les lecteurs ont déjà pu lire dans les ouvrages maritimes la relation, un peu exagérée sans doute mais vraie quant au fond, des affreux traitements dont les esclaves sont victimes tant de la part de leurs compatriotes que des négriers. Ces cruautés, que nous ne nous sentirions pas au reste le courage de retracer, car il y a des monstruosités que les convenances ordonnent de passer sous silence, ne se présentaient heureusement pas à Zanzibar. À Zanzibar, il n'existe pas de vente à l'encan des Africains. Les habitants qui se défont de leurs esclaves n'obéissent guère qu'aux besoins d'argent qu'ils éprouvent. Souvent aussi, ils ne les livrent à la traite que parce qu'ils sont mécontents de leur service ou de leur caractère. Les Noirs de Zanzibar arrivent dans ce port par cargaison entière, soit des îles environnantes, soit de la côte. Les équipages des navires qui servent à ce transport sont généralement peu nombreux et se composent d'Arabes et d'Africains convertis à l'islamisme. Eh bien, malgré la proximité de leur terre natale, malgré le peu de surveillance que l'on exerce sur eux et la supériorité de leurs forces, il n'est pas d'exemple que des esclaves se soient jamais révoltés. Après tout, il faut ajouter que si ce fait avait lieu, les révoltés seraient, en abordant la côte, impitoyablement massacrés par leurs propres compatriotes, car l'esclavage en Afrique constitue une dette ou un châtiment et est regardé comme une chose sacrée. On se figure généralement en Europe que les Noirs se font la guerre entre eux, afin seulement d'échanger leurs prisonniers contre la poudre, les armes, les miroirs et l'arak que leur apportent les négriers, ce qui est une grossière erreur. Les malheureux qui tombent dans l'esclavage n'y sont pas conduits par le sort des batailles. Quelquefois, il est vrai, ce fait se présente, mais d'ordinaire, ce sont 1000 causes diverses qui font perdre aux Africains leur liberté. D'abord, je parle toujours de la côte d'Afrique, tout plaideur qui perd un procès contre son égal devient esclave, non de ce dernier, mais du roi. Aussi, les petits monarques de la côte sont-ils sans cesse à exciter, cela se conçoit aisément, leurs sujets à plaider les uns contre les autres. Le gagnant obtient ordinairement de son souverain une mesure de liqueur, quelquefois moins encore. Les maîtresses des souverains nègres, dressées, les malheureuses, à ce manège, attirent-elles les regards d'un homme, on guette le soupirant jusqu'à ce qu'on le surprenne adressant une déclaration et il devient esclave. L'homme provoqué par les brûlantes œillades de la perfide beauté résiste-t-il, prévoyant le sort qui l'attend, à ses avances, elle le dénonce comme son séducteur, et il est condamné tout comme s'il avait eu le bénéfice de sa culpabilité. L'adultère entre époux entraîne la perte de la liberté pour le coupable et la victime. Le jeu conduit également à l'esclavage. On voit tous les jours deux adversaires jouer l'un contre l'autre leur liberté. Un maître met son esclave pour enjeu et le perd. L'esclave prend la fuite. Le maître est tenu de le remplacer de sa propre personne. Ce que l'on croira peut-être difficilement, et ce que je n'aurais jamais accepté moi-même comme vérité si je n'avais été plusieurs fois le témoin de ce fait, c'est que le mari peut vendre sa femme et ses enfants quand bon lui semble. Quant à la femme, elle ne peut se défaire que de ses enfants. Son époux échappe à sa tendresse. Si je me suis un peu étendu sur ces mœurs, c'est qu'elles sont en Europe généralement peu connues. Je demanderai à présent la permission, pour compléter ces renseignements sur la traite, de décrire aussi rapidement que possible la manière dont les esclaves sont traités à bord d'un négrier. D'abord, et avant tout, la salubrité du navire négrier étant aussi essentielle à la santé des captifs qu'à celle de l'équipage, les marins tournent toute leur attention vers cet objet. Pour atteindre ce but, on lave à grande eau, chaque soir, le pont supérieur, immédiatement après qu'il est évacué par la traite. Le plancher ayant tout le temps nécessaire pour sécher pendant la nuit, on évite ainsi l'humidité pernicieuse d'un lavage du matin. Les noirs séjournent sous le faux pont depuis le soleil couchant jusqu'au soleil levant. Les écoutilles sont toujours tenues entièrement ouvertes, à moins que le mauvais état de la mer n'oblige impérieusement de les fermer. Encore, dans ce dernier cas, ne le sont-elles jamais entièrement. Les noirs que l'on achète, une fois passés en douane, sont amenés à bord au soleil couchant. Ils reçoivent en arrivant, car ils sont ordinairement nus, un simple morceau de cotonnade. Les hommes, à partir de l'âge de 20 ans et au-dessus, sont accouplés deux à deux et mis au fer. Une petite barre rivée à ses deux extrémités et garnie d'anneaux coulants sert à attacher leurs pieds. Au reste, après quelque temps d'un examen occulte, on exempte de cette position gênante ceux dont la conduite et les paroles ne respirent ni la vengeance ni la révolte. J'ai déjà, plus haut, décrit l'emplacement qu'occupent à bord les logements des nègres. Quant aux négresses et aux enfants, ils couchent au milieu de la grande chambre, entre les cabines de l'état-major. Une fois la traite au complet, on indique à chaque nègre la place qu'il doit occuper pendant la nuit et durant toute la traversée dans le faux pont. Pendant le jour, on change les places des noirs quand ils sont sur le pont. Les plus âgés, les plus vigoureux, ou ceux dont on redoute l'esprit d'insubordination, occupent l'avant du navire. Les plus jeunes se trouvent ainsi près de la rambarde. Les enfants et les négresses sont tenus sur l'arrière parmi l'équipage. Tous les matins, une demi-heure après le lever du soleil, on fait monter les esclaves 4 par 4 sur le pont et on surveille leur toilette. Ils sont tenus de se laver la figure et les mains dans des baquets remplis d'eau de mer et de se rincer ensuite la bouche avec du vinaigre pour prévenir le scorbut. Cette opération terminée, on visite leurs fers, on les envoie se ranger aux places qui leur sont désignées d'avance et qu'ils doivent conserver toute la journée. Le premier repas leur est servi à 10 heures. Il consiste, pour chaque individu, en 6 onces de riz, de millet ou de farine de maïs cuit à l'eau. On ajoute, la plupart du temps, à cette ration, du sel, du sucre, de la viande ou du poisson salé, mais cela toujours en très petite quantité. Chaque gamelle contient des vivres pour 6 personnes. Rien de triste et de curieux à la fois comme la distribution du déjeuner. Un peu avant que 10 heures sonnent, les nègres, leurs yeux fixés avec avidité sur le guichet de la rambarde qui sert à introduire les gamelles sur l'avant, semblent ne plus respirer. Un silence solennel règne sur le pont. On entendrait la chute d'une feuille. Ces malheureux, excités plutôt encore par leur gloutonnerie naturelle que par la faim, oublient un moment et l'avenir de leur captivité qui les attend et les fers qui les enchaînent. Ils vont manger. Cette pensée absorbe toute leur imagination, toute leur intelligence. Enfin, 10 heures sonnent. Un murmure joyeux s'élève d'un bout à l'autre du navire. Aussitôt, quelques hommes de l'équipage, aidés par les nègres adolescents, viennent se ranger de l'avant à l'arrière pour faire parvenir les gamelles jusqu'aux places les plus reculées. sans cette précaution, pas une seule n'arriverait intacte à sa destination. Il faut voir alors l'avidité avec laquelle les nègres se précipitent sur leur ration. Elle explique leur dégradation et leur esclavage. Un coup de balai sur le pont suit immédiatement le repas. Puis, tout étant remis en place et en ordre, on distribue à chacun les travaux de la journée. La prudence exigeant que l'on occupe le plus possible les esclaves pour les distraire de leurs pensées de révolte, les uns sont chargés de faire des petits cordages ou de la tresse pour l'usage du bord. Ceux-ci trient ou vannent les légumes et les froments destinés à leur nourriture journalière. Ceux-là enfin grattent et nettoient avec des briques les planches du faubon qui leur servent de lit pendant la nuit. Ces travaux terminés, des interprètes apprennent aux esclaves des chansons peu poétiques et peu morales ou leur racontent de merveilleux récits dont le but est de leur prouver qu'on ne les achetait qu'afin de les délivrer des mauvais traitements de leurs maîtres et qu'une fois rendus dans les colonies, ils passeront une vie de délices. Après ces contes, et lorsque les esclaves paraissent ne plus les écouter avec le même plaisir, viennent les tours de force et les jongleries qu'exécutent les plus adroits matelots. Les nègres, ne connaissant pas le dessous des cartes, acquièrent peu à peu cette opinion que nous leur sommes infiniment supérieurs sous le rapport de la force physique. À 4 heures sonnant, leur sert un nouveau repas, semblable en tout point à celui du matin, qui est accueilli toujours avec la même joie vorace. Alors, si le temps est beau, les danses commencent, car, après manger, rien ne plaît davantage aux nègres que danser. Les exercices chorégraphiques des Africains ne ressemblent en rien à nos danses d'Europe. Le nègre, lui, ne tient ni à la grâce ni à la science. Ce qu'il lui faut, c'est de la force, de la souplesse, de la passion, plus encore du délire. L'orchestre se compose invariablement d'une calebasse ou d'un bambou vide, sur lesquels résonnent des cordes ou bien du tam-tam. Pendant que cette sauvage musique s'élève en notes discordantes vers le ciel, les assistants, réunis en rond, l'accompagnent en frappant dans leurs mains et en poussant, je n'ose dire des chants, des hurlements bizarres. Enfin, un nègre et une négresse, jeunes ordinairement tous les deux, sortent des rangs des spectateurs et se placent, presque jusqu'à se toucher, vis-à-vis l'un de l'autre. Alors, l'action s'engage. Les deux danseurs, froids et impassibles à leur début et ne tenant qu'à montrer leur grâce, se livrent d'abord à quelques contorsions insignifiantes qu'ils accompagnent de mouvements de tête, de bras, d'épaules et de grimaces grotesques. Ce n'est que le prélude, le lever, pour ainsi dire, du rideau. Bientôt, s'échauffant au feu de leur regard, ils changent d'allure. Alors ce ne sont plus des créatures humaines. Ils deviennent des tigres rugissants d'amour. Dire leur émotion furieuse, leur exaltation sans nom, leur cri hideusement sublime, ne serait chose impossible. Il est des nudités que la glace ne peut recouvrir. Enfin, haletant, accablé, brisé par l'émotion et par la fatigue, le couple chorégraphique finit par tomber brutalement à terre, et d'autres danseurs le remplacent. Au moment où le soleil va disparaître, on donne le signal de la retraite. Seulement, on a le soin, avant de réintégrer les nègres dans leur logement, de les fouiller soigneusement, afin de s'assurer qu'ils n'ont, pendant leur séjour sur le pont, dérobé aucun objet qui pourrait les aider à briser leur fer. La nuit venue et la toilette du navire terminée, l'équipage se retranche, ayant ses armes placées à portée en arrière de la rambarde. Après le souper, une moitié des matelots prend le quart et la garde jusqu'à minuit, heure à laquelle ceux qui ont été se reposer viennent les remplacer jusqu'à 4 heures du matin. À 6 heures, tout le monde est réuni sur le pont et ne le quitte plus avant la nuit, car dans cette pénible navigation de la traite, il n'existe de repos pour personne tant que le soleil brille à l'horizon. Après un mois et demi de séjour à Zanzibar, la cargaison de la Doris se trouvait au complet. Elle se composait de 250 noirs, 100 étaient passés en douane et 150 avaient été embarqués clandestinement. Je dois rapporter ici une singulière remarque que je fis pendant que l'on amenait les nègres à bord. C'est que ceux-ci, quoique déjà esclaves à Zanzibar, montraient un désespoir et une frayeur extrême lorsque leur maître nous les livrait. Ils ne nous suivaient généralement qu'après avoir pris congé avec des hurlements et des sanglots de leurs camarades. On eût dit que nous les conduisions au supplice. Un jour, à force de prévenance, de douceur et surtout d'arrac, car je tenais à éclaircir le mystère de ce désespoir inexplicable, je parvins à faire parler un de nos noirs. « Pourquoi donc ?» lui demandai-je en inclinant une bouteille d'eau-de-vie que je tenais à la main au-dessus de son verre. « Pourquoi éprouves-tu une telle douleur de quitter tes camarades ? Les aimes-tu donc à un tel point que te séparer d'eux te semble une chose si cruelle ?»« Je n'aime personne, maître, » me répondit le nègre, suivant d'un œil plein d'anxiété et de convoitise la courbe que décrivait le goulet de ma bouteille en s'inclinant vers son gobelet. « Alors pourquoi ces hurlements et ces sanglots ? » repris-je. « D'abord et avant tout, je t'avertis d'une chose. C'est que si tu ne réponds pas franchement à ma question ou que tu essayes de me tromper, je ne te donnerai plus à boire. Parle maintenant. » Le nègre hésita un moment, mais à la vue de ma bouteille que je redressais, il s'empressa de prendre la parole. « Maître, je suis triste parce que je sais que vous devez m'égorger. »« Es-tu fou ? Qui a pu te raconter un semblable mensonge ? On a voulu se moquer de toi. » « Oh, je sais bien que cela est vrai, » dit le noir en hochant la tête d'un air de doute à mes paroles. « C'est mon maître Sidi Ali qui m'a prévenu du sort qui m'attend. »« Réfléchis un peu, malheureux, et tu comprendras que nous ne dépenserions pas tant d'argent pour vous acheter si notre intention était de vous tuer ensuite. Quel avantage retirerions-nous de notre barbarie ?»« Celui de boire notre sang. » »« Sidi Ali m'a appris que cette boisson faisait vos délices. »« Oh, je sais bien que je ne puis l'échapper. » J'eus beau faire tous mes efforts et m'épuiser en raisonnement pour retirer le nègre de sa stupide erreur, je ne pus y réussir, et j'en fus pour mes frais d'arrac et de logique. Je reviens à mon récit. Notre chargement étant au grand complet, il ne nous restait plus qu'à mettre à la voile. Seulement, avant d'appareiller, nous devions subir la visite de rigueur que rend la douane à tous les négriers avant leur départ. Or, comme nous avions, je le répète, embarqué près de 150 esclaves en contrebande, cette formalité ne laissait pas que de contrarier un peu le capitaine. À la rigueur, il nous eût été possible, au moyen de certains changements dans la disposition de l'intérieur du navire, de cacher pendant le temps que durerait la visite les 150 Africains. Ils n'eussent peut-être pas été bien à leur aise, il est vrai, mais au moins, et cela était pour nous l'essentiel, ne les eût-on point découverts. Seulement, nous pouvions être certains qu'en agissant ainsi, nous serions dénoncés par les autres Noirs. Or, une fois reconnus coupables, notre navire était confisqué et nous arrêtés par une soldatesque insolente et cruelle. Nous nous trouvions dans une affreuse position. Quant à payer les droits pour les 150 Noirs embarqués en contravention, M. Liard eût préféré plutôt se faire tuer sur place. Le capitaine, quoique l'équipage n'éprouvât pas pour lui un profond amour, n'en comptait pas moins, et avec raison, sur son dévouement, et voici pourquoi. C'est que nos hommes se trouvaient tous intéressés à la réussite de l'expédition par leur port permis. Le soir du 39e jour depuis notre arrivée à Zanzibar, M. Liard nous réunit tous sur l'arrière du navire. « Mes amis, nous dit-il, nous ne pouvons nous soumettre à la taxe exorbitante et ridicule de sortie que le gouverneur exige de nous. Acquittons-nous donc avec les bagues du petit phoque. Notre position est délicate, l'entreprise que nous allons tenter est difficile, et sa non-réussite nous exposerait aux plus épouvantables dangers. Calculons donc le mieux que nous pourrons les mesures à adopter pour notre escapade. Le conseil est ouvert, j'attends vos avis. » « Mon avis, capitaine, dit le second, M. Boudin, est qu'il ne faut pas songer à opérer notre fuite ce soir même. » « M. Boudin a raison, capitaine, s'écria tout d'une voix l'équipage. Remettons la partie à demain. » « Soit, reprit M. Liard, à demain. Mais puisque nous voilà réunis, convenons de suite de nos faits et gestes, car notre escapade ne présente pas de minces difficultés. D'abord, nous ne pouvons appareiller du mouillage même par la raison que le déploiement de nos voiles et le bruit de la manœuvre nous feraient remarquer par les vaisseaux qui nous entourent. Mon avis à moi est que, sous prétexte d'installer une palangre, nous allongeons demain une immense touée qui s'étend depuis le navire jusque bien en dehors de la partie nord de la ville. « Bravo, capitaine, s'écria le matelot François en interrompant M. Liard. « Vous avez mis le doigt sur la malice. Faut pas chercher autre chose. Impossible de trouver mieux. » En effet, nous tombâmes tous d'accord sur la sagesse de cette manœuvre, et il fut convenu à l'unanimité qu'on la mettrait à exécution le lendemain. Le jour suivant, on allongea la touée, puis la nuit venue vers les 11 heures du soir, on commença à aller la Doris en observant le plus grand silence. Une fois que le navire fut parvenu en dehors de la partie nord de la ville, c'est-à-dire à un point isolé des habitations et à l'abri de la surveillance des sentinelles, nous livrâmes successivement toutes nos voiles à la brise de terre, qui par bonheur était assez vive. Bientôt, nos voiles orientées et favorisées par le vent, nous voguâmes, pleins d'espoir, en adressant un éternel et ironique adieu à la ville et surtout à la douane de Zanzibar. Quant à nos gardiens arabes, Satur et Darak, nous avions laissé ce soir-là toute notre cave à leur disposition. Ils dormaient, ainsi que l'indiquait le ronflement sonore, d'un sommeil profond et qui ne devait pas cesser de sitôt. Monsieur Liard, dans la joie de son âme, adressait des reproches au rapace gouverneur de Zanzibar, l'incomplet Yakout, comme s'il l'eût tenu en sa puissance. Notre heureuse réussite, la plus grande économie qu'elle lui causait, l'enivrait. S'il est un proverbe vrai, c'est bien assurément celui qui conseille de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, car vers minuit et demi, au moment où nous chantions tous victoire, la brise tomba tout à coup et fut remplacée par un calme plat et houleux tellement profond que notre brick, ne pouvant résister au courant qui le drossait vers la ville, nous fûmes obligés de mouiller sous voile à 2 lieues au nord de la rade. Notre intention, en quittant Zanzibar, était de déposer nos gardiens arabes, de plus en plus plongés dans le sommeil, à l'extrémité septentrionale de l'île. Le contrebandier qui venait de nous survenir eût dû nous faire abandonner cette résolution, car ces Arabes devenaient comme otages précieux pour nous. Cependant, M. Liard, après s'être concerté avec le second M. Boudin, résolut, je n'ai jamais pu me rendre compte de cette fantaisie, de s'en débarrasser au plus vite. Ma position mixte à bord de la Doris, car j'y étais considéré plutôt comme un aide que comme un officier de traite, fut cause que le capitaine et le second ne daignèrent pas prendre mon avis et me consulter dans cette circonstance. Que l'on juge de mon étonnement et de mon désappointement tout à la fois lorsque le capitaine m'ordonna de réveiller les douaniers arabes et de les faire descendre dans leur embarcation qui traînait à la remorque de la Doris. Je lui objectai en vain qu'il commettait là une grande imprudence. Mes raisonnements ne furent pas écoutés. « Votre imagination est trop vive, monsieur Garneret, » se contenta-t-il de me répondre en souriant d'un air de profonde supériorité. « Vous voyez un danger là où il n'y en a pas même l'ombre. Réfléchissez donc, avant de vous alarmer ainsi, que, comme nous embarquons nos gardiens sans rames et sans voile, leur canot, aidé seulement par la force du courant, mettra au moins 3 heures pour atteindre la terre. Joignez à cela le temps qu'il leur faudra pour instruire l'autorité de leur mésaventure, et vous verrez qu'avant que l'on puisse arriver jusqu'à nous, nous aurons déjà gagné le large. Si le calme ne continue pas, capitaine. Bon, cela n'est pas à craindre. Il faudra bien que la brise reprenne d'un côté ou d'un autre. Il n'y avait pas à répliquer, et je dus me conformer aux ordres du capitaine. Je réveillai donc les douaniers arabes, et je leur ordonnai de descendre immédiatement dans leur embarcation. Je ne pus, malgré ma mauvaise humeur, m'empêcher de rire du grotesque désespoir et du stupide étonnement que les pauvres diables éprouvèrent en apprenant notre escapade. Ils nous jurèrent qu'il y allait pour eux de leur tête, et nous prièrent naïvement, en nous promettant toute leur reconnaissance, de retourner en rade nous livrer aux autorités. Je n'ai pas besoin d'ajouter que nous accueillîmes fort mal cette ridicule demande. Quelques minutes plus tard, les osmanlis, privés de leur âme et jetés dans le canot, voguaient, entraînés par le courant vers la rade. Inutile de dire qu'ils s'éloignèrent de nous en nous accablant d'imprécations et en nous jurant que si nous leur tombions entre les mains, ils nous égorgeraient tous au milieu des plus affreux supplices. Il pouvait y avoir environ 20 minutes que nous avions embarqué les Arabes lorsque nous entendîmes le tonnerre gronder dans le lointain. Ce bruit nous épouvanta plus que je ne puis le dire, car nous savions que quand un orage éclate dans ces parages, le long de la côte, on peut regarder cela comme un indice certain de calme. Le capitaine commença, mais il était trop tard, à se repentir de sa précipitation et à maudire son imprudence. Au reste, chacun le blâmait. Il était alors environ 2 heures du matin. « Mes chers et bons amis, nous dit M. Liard, qui avait perdu toute son arrogance, que pensez-vous que nous devions faire maintenant pour nous tirer de notre mauvaise position ?» Comme M. Boudin, homme implacable, ne répondait pas, et que moi, qui venais immédiatement après lui, je gardais le silence, ce fut François Comballeau qui prit la parole. « Mais avis, capitaine, dit-il en mordillant sa chique, que si nous n'en imposons pas aux Arabes, nous sommes fichus. Le mieux donc, c'est de leur faire peur. Voilà mon avis. »« Ton avis, lui répondit doucement M. Liard, serait excellent s'il était praticable. »« Comment praticable, capitaine, et pourquoi donc? Sauf le respect que je dois à votre autorité, ne l'est-il pas ?»« De quelle façon veux-tu t'y prendre pour effrayer les osmanlis ?» « C'est pas malin, capitaine. Nous avons du temps de reste. Déguisons notre brick en 3 mâts de guerre avant que le jour se lève. »« Parbleu François, tu as raison. Oui, déguisons le navire. Après tout, si ces canailles-là ont la bêtise de nous reconnaître, nous en serons quittes, capitaine, pour taper dessus. Ça nous distraira. L'opinion émise par Combalot ayant réuni l'unanimité des suffrages de l'équipage, nous nous occupâmes de suite de la métamorphose du navire. Nous commençâmes, avant tout, par orner le triste flanc noir de la Doris d'une ceinture jaune plaquée à grands coups de pinceau. Ensuite, nous allongeâmes ces mâts de perroquet de deux élégants bouts or, la corne et le gui furent placés sur les plats-bords. Nous guindâmes un troisième mât sur notre arrière, nous descendîmes le taux dans la cale, nous élevâmes au moyen de faux pavois les bastingages et nous ouvrîmes les sabords. Enfin, des canons en bois, ajoutés aux deux seules véritables caronades que nous possédions, nous complétèrent une batterie de 6 pièces à tribord. Pour dernière précaution, nous bordâmes le navire d'une espèce de filet d'abordage. Lorsque les premières lueurs de l'aube éclairèrent l'horizon, la Doris offrait, à s'y méprendre, l'aspect martial d'une corvette montant 12 bouches à feu. Quoique préparée à tout événement, à la résistance comme à l'appareillage, nous n'en examinions pas moins pour cela, avec anxiété, l'état du ciel. Aucun indice de vent ne s'y remarquait, et rien ne pouvait nous donner à supposer que le calme dût bientôt cesser. À la naissance du jour, nous aperçûmes quelques barques, montées par de paisibles indigènes, qui se laissaient nonchalamment dériver au courant vers la ville. D'autres, au contraire, qui s'efforçaient de refouler la marée à grands coups de pagaie. Mais de nos douaniers, aucune trace. Le port semblait aussi plongé dans le plus profond repos, et rien ne nous donnait à supposer que l'on s'y occupât de préparatifs de poursuite contre nous. Avions-nous été trahis par nos courtiers? Nos douaniers avaient-ils donné l'éveil sur notre fuite? Se doutait-on à Zanzibar de notre travestissement? Nous ne savions que supposer, que croire, lorsque le soleil, au quart de sa course, après avoir épuré l'atmosphère du brouillard intense qui enveloppait le rivage, permit aux objets de se montrer plus distincts. Prantou et Ducasse, placés en vigie, nous crièrent qu'une flottille d'embarcations, se dégageant avec vitesse d'entre les navires de la rade, orientait sur nous. À cette nouvelle, à laquelle nous nous attendions, et qui ne nous en causa pas moins pour cela une vive émotion, nous nous précipitâmes, pour nous assurer de sa véracité, sur les barres de perroquet. Hélas, il n'était que trop certain que le gouverneur Yakout s'occupait de nous. Seulement, cette flottille annoncée se composait en tout de 2 grands dos, remplis de gens armés faisant force de rame vers la Doris. Cet événement coupant court à toutes nos incertitudes, nous abandonnâmes nos conjectures pour nous occuper sérieusement de notre défense. Avant tout, nous nous empressâmes de faire descendre, précaution indispensable, les esclaves dans l'entrepont. Nous remarquâmes, avec autant de surprise que de déplaisir, que les Africains ne se conformèrent à cet ordre que de fort mauvaise grâce. Leur attitude menaçante et leurs murmures, presque des clameurs, certaines paroles imprudentes qui révélaient clairement leurs intentions de révolte et de résistance, nous prouvèrent qu'ils étaient instruits du danger que nous courions, et que, pour obtenir leur délivrance, ce qui, depuis qu'ils s'imaginaient que nous voulions boire leur sang, était devenu pour eux une idée fixe, ils feraient tous leurs efforts pour aider nos ennemis dans leur attaque. Comme nos emménagements intérieurs n'étaient pas à l'abri d'un coup de main de la part d'un nombre aussi considérable d'hommes féroces et exaspérés, nous barricadâmes solidement les écoutilles. Toutefois, nous gardâmes avec nous 12 de nègres qui nous aidaient à faire le service du bord, qui nous paraissaient tout dévoués et qui ne demandaient qu'à abandonner Zanzibar. Ces hommes devaient nous servir à augmenter, du moins pour l'apparence, la force de notre équipage, par trop restreint pour représenter celui d'une corvette. Seulement, il s'agissait, pour que leur présence sur le pont pût nous servir, de mettre ces Africains en harmonie avec le travestissement de la Doris. Malgré leurs craintes et leurs appréhensions, nos matelots procédèrent à ce déguisement avec autant de promptitude que de gaieté. 5 minutes plus tard, nos fidèles nègres, barbouillés avec une mixture de farine, de sang de poulet et d'eau, affublés de perruques d'étoupe et habillés comme des matelots européens, présentaient de près le spectacle le plus stupidement grotesque et hideux que l'on puisse s'imaginer. Vu de loin, il devait, comme décor, singer assez bien la nature. Ce travestissement opéré, malgré, je le répète, la gravité de notre position au milieu des éclats de rire, nos matelots songèrent à leur toilette. Elle ne fut pas, quoique fort compliquée, bien longue. M. Liard revêtit son uniforme de lieutenant de vaisseau. Le second, M. Boudin, simula assez adroitement avec une chemise de laine rouge un frac d'officier anglais. cinq ou six grands chapeaux de paille, noircis à la hâte, tordus en forme de tricorne et surmontés de panaches de plumes de coq, abritèrent nos têtes et celles de Fleury et de Boubert. Enfin, l'étamine d'un pavillon fournit des ceintures à tout ce brillant état-major. Pour mieux faire parade de notre monde et pour montrer davantage encore à l'ennemi que nous nous soucions fort peu de son approche, le capitaine fit serrer à la fois les perroquets, les cacatois et le clinfoc. Toutefois, il fit garder les voiles majeures sur leur cargue et prêtes à être déployées au premier vent. Pendant le temps que nous avait pris notre travestissement, les dos, malgré le courant qui leur était contraire, avaient continué d'avancer avec rapidité et s'étaient de beaucoup rapprochés de nous. François Comballeau, ne s'en rapportant à personne d'un soin aussi important, s'occupait à charger lui-même nos deux camarades. « Capitaine, » dit-il en arrêtant M. Liard, qui passait près de lui, « voici ces gredins qui sont à portée. Faut-il faire feu ?»«
Non, François. Je désire, si cela est possible, que l'agression vienne d'eux. »«
C'est-à-dire, capitaine, que vous voulez, avant d'essayer de manger votre ennemi, que votre ennemi vous mange lui-même. Mais avis que si nous entamions franchement la danse, cela vaudrait mieux, car nous aurions le temps d'envoyer à ces farceurs-là une dizaine de bordées avant qu'ils nous accostent. Or, il faudrait être bien maladroit. » Ou jouir d'un fameux guignon pour ne pas pouvoir, sur 20 boulets, en flanquer quelques-uns dans leur dos, soit dit sans malice et sans calembour, comme vous dites.
Peut-être avez-vous raison, François. Avant tout, commençons par assurer nos couleurs par un simple coup de canon chargé à poudre, nous verrons après.
Aussitôt, le son aigu du sifflet se fait entendre sur la Doris, on hale sur l'embossure et le navire, obéissant à la force de ce cordage, se place en travers de l'ennemi et lui montre sa fausse batterie. Le pavillon anglais monte à la corne, et François l'assure du coup de canon convenu. Les dos, pour répondre à cette politesse, lèvent leur rame et viennent en travers nous montrer leur beau pavillon rouge. Un moment, nous espérons avoir trompé l'ennemi, mais vain espoir, sa manœuvre était ironique. Les Arabes, se croyant maîtres de nous, commencent déjà, selon l'expression de François, à nous blaguer, car bientôt les dos laissent retomber leurs avirons à la mer, et redoublant d'efforts et de vitesse, s'achemine de nouveau vers nous. Le combat est devenu inévitable. L'action qui va s'engager est probablement une des moins sérieuses auxquelles j'ai encore assisté, et cependant, j'éprouve une tristesse et une préoccupation profonde. C'est que, cette fois, si nous sommes vainqueurs, aucune gloire ne doit couronner notre triomphe, tandis que si le sort se déclare contre nous, nous devons nous attendre au plus humiliant et au plus cruel supplice. Nous combattons pour une mauvaise cause.
« Tout cela semble vous ennuyer, lieutenant, » me dit Comballeau en me voyant passer près de lui.
« Au fait, c'est drôle, tout de même, de songer que nous nous battons pour éviter quelques frais de douane. Quant à moi, mon port-permis me donne droit à l'embarquement d'un esclave, si l'on me casse la tête ou que l'on m'en pende. Ce sera une économie de 22 francs que me vaudra ce désagrément. Enfin, n'importe. À présent que le vin est tiré, il faut bien le boire.
Que ces musulmans soient dupes ou non de notre stratagème, nous dit alors le capitaine, il est incontestable qu'ils veulent nous imposer une visite à main armée, ce qui serait notre perte. Allons, Comballeau, envoyez-leur un nouveau coup de canon d'avertissement, pointé au-dessus de l'embarcation la plus avancée.
À peine M. Liard a-t-il achevé de donner cet ordre que la détonation de la carronade retentit. Le boulet passe en sifflant à quelques toises au-dessus du dos arabe et continue sa route en ricochant sur la surface de la mer. Les Zanzibariens, pour toute réponse, appuient davantage encore sur leurs avirons. « Capitaine, demande Comballeau, qui a déjà rechargé sa pièce, voulez-vous me permettre de tirer un peu plus bas ?»«
Notre position est devenue par trop critique pour que l'on puisse garder plus longtemps des ménagements. Un moment de faiblesse ou d'indécision de notre part et nous sommes perdus. » C'est ce que le capitaine comprend à merveille.
« Oui, François, pointez sérieusement. »
Comballeau, le corps plié en deux, la tête appuyée contre la culasse de la caronade, reste pendant quelques secondes immobile comme une statue. Toute son attention, toutes ses facultés sont concentrées dans le pointage.
« Ça y est » s'écrie-t-il enfin, en mettant vivement le feu à l'amorce du canon. Notre brave matelot ne s'est point vanté. À peine la fumée qui nous cache le dos s'est-elle dissipée, que nous apercevons son mât et sa voile qui, tombés sur son pont avec tout leur fardage, enveloppent les Arabes comme dans un filet. Quelques-uns d'entre eux, blessés par cette chute, d'autres furieux, et le plus grand nombre effrayés, poussent des cris qui témoignent de l'adresse de François. et qui nous comble de joie.
« Edune, » dit tranquillement Combalot en mordant sa chique d'un air assez satisfait.
« François !» s'écrie M. Liard, qui, dans un mouvement d'enthousiasme et de joie, sort tout à fait de son caractère. « Je t'accorde un second port-permis. Si les armateurs de la Doris ne sanctionnent pas ma promesse, eh bien, j'en prendrai l'exécution pour mon compte. À présent, occupe-toi du second dos. »«
Merci, capitaine, » répond le matelot. « Si je suis massacré ou pendu, j'aurai au moins la consolation de pouvoir penser qu'au lieu de l'être pour 22 francs, je le serai pour 44. »
Combalot s'empressa alors de diriger sa caronade contre la seconde embarcation arabe, dont les hommes, brandissant leurs grands sabres et oreillettes à gants, poussaient des hurlements et nous accablaient d'injures. Quant à la première barque, il n'en était plus question. Toute désemparée et hors d'état de soutenir la mer, elle s'en allait en dérive au gré du courant. Notre adroit et heureux artilleur, je ne dois pas omettre ce détail, avait cette fois chargé ses deux pièces jusqu'à la gueule de mitraille.
« Eh bien, François, dit le capitaine, qu'attends-tu pour tirer ?»«
J'attends, capitaine. Tenez, voici justement ce que j'attends, » répondit-il en montrant d'un geste de tête l'embarcation ennemie, qui, arrivée à portée de pistolet de la Doris, se mettait en travers pour nous envoyer une décharge de mousqueterie.
« Je ne veux pas faire de jaloux, faut que chacun ait sa petite part. »
À peine François a-t-il achevé de prononcer ces paroles, que deux trompes de flammes et de fer tombent sur le dos, qu'elles enveloppent de fumée. Les Arabes, criblés par la mitraille, poussent des cris affreux. La plus extrême confusion règne à leur bord. Ce ne sont partout que gémissements, râles et plaintes. 5 minutes plus tard, la barque ennemie, envahie par l'eau, regagnait précipitamment pour ne point couler la rade de Zanzibar. Nous étions maîtres du champ de bataille. Cette victoire facile, et qui ne nous avait pas coûté une seule goutte de sang, fut célébrée par une distribution de vin. François, le héros de la fête, montra une grande modestie. Toutefois, comme il était passionné pour le chant, et qu'il avait la mémoire farcie d'un intarissable répertoire de chansons, il répéta toute la journée à tue-tête « Ah, maman, que je l'échappais belle !» entremêlé de « La victoire est à nous !» etc., etc. Ce fut la seule allusion qu'il se permit à sa belle conduite. Pendant tout le reste de la journée, nous restâmes sur le qui-vive. Mais il paraît que les Arabes se tenaient pour satisfaits, car ils ne nous donnèrent plus signe de vie. Ce ne fut que le lendemain, vers la tombée de la nuit, que la brise se leva. Nous profitâmes, je n'ai pas besoin de le dire, avec empressement de cette circonstance pour mettre à la voile. 2 heures plus tard, l'obscurité et la distance ne nous permettaient plus d'apercevoir Zanzibar. Nous déshabillâmes alors, si je puis m'exprimer ainsi, la Doris de son travestissement et nous reprîmes notre aspect ordinaire. Les matelots déguisés en officiers, triste chose que l'esprit humain, n'abandonnèrent leurs grotesques uniformes d'état-major qu'avec regret, mais le plus peiné de tous fut le novice Fignolet. Fignolet, intrigant et ambitieux, s'était, dans notre grande mascarade, affublé d'un costume de coq ou de cuisinier en chef, et il avait déjà, sa vanité aidant, pris si bien au sérieux ses prétendues fonctions qu'une fois redevenu simple novice, il n'en conserva pas moins à tout jamais un air de gravité que nous ne lui avions jamais vu jusqu'alors.